Tout de suite, l'atelier campus. Les étudiants prennent la parole. La gestion de l'innovation.
Alors, bonjour à tous. Nous avons mené avec mes camarades une étude sur les spécificités de la gestion de l'innovation. Fanou, François Toracinta, pardon, et Angelina Roque, en binôme, ont traité le problème de la rationalisation. Marine Baulach, chargée de communication, elle s'est occupée de la mise en forme des discours et du site internet que nous avons créé. Marine Melgrani, Marion Salvi, en binôme, ont traité la question du capital humain dans le processus de gestion. Et Marina Paoli s'est occupée, elle, des institutions qui financent l'innovation. Selon Daniel Jouve, consultant en RH, en ressources humaines, pardon, ce ne sont pas les études de marché sur la lampe à huile qui ont permis l'invention de l'électricité. Par cette citation, il veut mettre en avant le fait qu'il n'y a pas que le côté économique pour innover. Dans notre société actuelle, le marché tend à se dynamiser pour faire face à la crise économique mondiale qui commença à faire son apparition en 2008. Les entreprises se doivent d'être compétitives et performantes. Pour survivre, elles sont donc obligées de se faire une place sur un marché qui est de plus en plus dynamique et qui doit faire face à l'émergence de nouveaux pays très concurrentiels. Cela se traduit en outre par l'innovation. Longtemps considérée, suivant la formule de Schumpeter, qui lui disait que l'innovation était une destruction créatrice. Qu'est-ce qu'il entendait par une destruction créatrice? Selon lui, les secteurs qui n'innovaient pas allaient perdre des emplois, c'est-à-dire qu'ils allaient s'éteindre, et pour laisser place à de nouveaux secteurs plus dynamiques, mais cela allait se compenser par une création d'emplois supérieure aux emplois détruits. De nos jours, l'innovation, elle, est considérée comme une évolution créative qui favorise la croissance et qui s'impose comme un facteur clé de compétitivité pour se différencier. L'innovation entraîne donc des conséquences positives. Les entreprises innovantes, comme on a pu le voir par de nombreuses études, ont des performances économiques qui sont significativement supérieures à celles des entreprises non innovantes. En fait, ça se traduit parce qu'une entreprise innovante, elle a la capacité de conquérir plus de parts de marché puisqu'elle se différencie des autres. Pour aider à répondre à des enjeux mondiaux, il faut que l'innovation mise en place par l'entreprise, elle soit efficace, c'est-à-dire qu'elle doit dépasser le stade de l'invention. Le produit ou le produit de la recherche, ça peut être pas forcément un bien matériel, il doit atteindre un aspect réel et être adopté par des entreprises et vu par les citoyens. L'innovation se traduit par un investissement conséquent des entreprises. Cet investissement, il peut être économique, mais également dans le savoir, c'est-à-dire qu'il faut investir dans des travailleurs qualifiés, c'est-à-dire qu'il doit avoir un savoir. Il doit avoir une base dans la recherche pour pouvoir innover. En ce qui concerne le financement de l'innovation, il y a deux formes de financement très courantes. Donc, il y a les ressources qui proviennent des entreprises elles-mêmes, c'est-à-dire les grandes entreprises, elles font du profit, elles épargnent, donc elles peuvent ressortir ce qu'elles ont mis de côté pour innover. Mais cela restreint le type d'entreprises innovantes puisqu'elles sont un nombre assez limité comparé aux PME et aux TPE qui sont les petites et moyennes entreprises qu'on trouve le plus couramment. Donc ces petites structures, elles n'ont pas la capacité de s'autofinancer. Elles ont déjà du mal à faire du profit et l'investissement c'est trop conséquent pour elles. Donc cela nous amène à penser, donc à dire que les États ont des responsabilités spécifiques à assumer dans la stimulation de l'innovation. C'est-à-dire que comme les projets de recherche ils sont très lourds en termes de financement, ils ne peuvent voir le jour pour les petites entreprises et même pour les grandes qui veulent vraiment innover, enfin avoir une grande capacité d'innovation. Ces projets ne peuvent voir le jour qu'avec le soutien de l'État, le soutien financier. On ne peut pas demander à une petite entreprise de dire « oui, j'investis beaucoup, mais ça va mettre en péril mon entreprise et si ce n'est pas rentable sur le court terme ». L'entreprise est ferme, donc ça se traduit par un licenciement, des pertes d'emploi, des gens qui auront des problèmes financiers. Donc c'est trop incertain pour donner cette grande responsabilité à une seule entreprise. En ce qui concerne l'Europe, elle intervient sur tous les territoires qui la composent. Par exemple, je vais vous prendre un exemple, elle a mis en place un programme cadre, c'est-à-dire un programme principalement destiné aux petites et moyennes entreprises pour les aider à être plus compétitifs dans l'innovation, en améliorant leur accès au crédit et en leur fournissant des services d'appui. Donc les services d'appui, eux, par contre, ils diffèrent selon la région dans laquelle se trouve la PME. Donc ça nous amène à faire un constat, qu'il y a des mécanismes européens et nationaux, même régionaux, qui soutiennent les institutions pour que les entreprises innovent. Mais ces derniers sont basés sur une même définition de l'innovation. Mais quelle est cette définition ? C'est le manuel d'Oslo 16 de l'OCDE qui propose la définition de ce qu'est pour lui une innovation. Selon lui, c'est un peu difficile à comprendre. Une innovation est la mise en œuvre d'un produit ou d'un procédé nouveau ou sensiblement amélioré, d'une nouvelle méthode de commercialisation ou d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques d'une entreprise. Donc cela se traduit en fait par quatre grands points. L'innovation de produit, qui correspond à la création d'un bien ou d'un service ou même à son amélioration. L'innovation de procédé, qui se traduit par la mise en place d'une méthode de production nouvelle ou ainsi améliorée. L'innovation de commercialisation, qui est une nouvelle méthode de commercialisation d'un produit ou des changements au niveau d'une entreprise. Et la dernière, c'est l'innovation d'organisation. C'est-à-dire que ça met en place une nouvelle méthode de l'organisation du travail. Mais pour la Commission européenne, pour que ce soit mieux compris, parce que ça c'est quand même des termes assez fixes et compliqués, elle donne une définition. Elle dit que l'innovation est prise comme un synonyme de produire, d'assimiler et exploiter avec succès la nouveauté dans les domaines économiques et sociaux. Donc ça veut dire que ça englobe même le social. Ça donne pas un cadre trop plus économique comme le donne le manuel d'Oslo. Donc on arrive à un deuxième constat, qui est que localement, la définition de l'innovation n'est pas comprise de la même manière. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comparer ces deux définitions parce qu'il n'y a pas de, par exemple, il n'y a pas de grandes entreprises de pointe dans les petites régions. Donc pour elles, elles ne peuvent pas se baser sur une même définition que celle donnée par les institutions. De ce fait, il faut cerner la définition de l'innovation sur laquelle se sont posées les entités, car ce sont elles qui déterminent ce qu'est un projet innovant. Mais si on gère trop l'innovation, est-ce qu'on ne lui fixe pas des limites ? Cependant, on peut voir qu'il y a quand même de nouvelles formes d'innovation qui émergent par rapport aux conjonctures économiques régionales ou nationales. Au niveau local, les moyens engagés sont moins importants. Ce qui est considéré comme une innovation en Corse va être considéré comme rien du tout au niveau européen. Par exemple, en Corse, mettre une climatisation dans un bureau, c'est considéré comme innovant parce qu'ils ont besoin de financement pour le faire, certaines entreprises. Si on dit au niveau européen que notre entreprise a innové en mettant une climatisation, ils ne vont pas le prendre de la même manière. La définition de l'innovation aussi, elle peut être différente selon les esprits. C'est-à-dire que si on se place du côté du consommateur, pour nous consommateurs, une innovation, ça va être un produit, quelque chose de nouveau. On va dire, ah oui, ça, on ne l'avait jamais vu avant, c'est une innovation. Alors que pour une entreprise, une innovation, ça peut se traduire par le fait de changer son packaging, de rendre plus jolie sa bouteille. Sauf que quand on prend une bouteille d'eau qui a changé de packaging, l'eau, c'est toujours la même pour nous. Donc, il y a aussi une divergence au niveau de cette définition-là. Les entités en amont, elles, donne et impose un cadre à un processus, c'est-à-dire que le cadre il n'est pas forcément bénéfique à tous. De ce fait, les inventions intéressantes qui peuvent devenir des innovations, mais qui ne collent pas à la stratégie mise en place par ces entités, elle ne recevra pas d'aide, donc ne verra pas le jour. Le processus menant à avoir une aide financière, en plus, il est très long, il est de plus en plus rationalisé, c'est-à-dire que ça se traduit par des chiffres. Ils vont faire des études pour savoir si ça va être rentable. Au niveau de notre région, on peut parler localement des aides qui ont été mises en place. Il s'agit de l'incubateur qui a été mis en place à la zone technologique d'Herbaïol. Lui, il n'est empruntable par contre que pour les innovations technologiques. Donc déjà, ça restreint le champ d'activité. On peut dire aussi que notre thème, c'est gestion et innovation. A priori, ce sont deux phénomènes qui s'opposent. Pourtant, gérer est l'action d'administrer, c'est-à-dire qu'il faut faire les bons choix, les bons recrutements par exemple, et trouver les bons profils. Donc c'est-à-dire qu'il faut faire appel à une créativité et ne pas restreindre son champ de recrutement, parce que les artistes, comme on peut considérer les innovateurs comme des artistes, ils ont besoin d'avoir une liberté d'expression quand même pour faire part de leurs nouvelles idées. Je vais choisir un positionnement qui parle des cadres fixés. Qu'est-ce qu'un cadre fixé ? Une définition, elle permet de donner une représentation à une notion, de la définir, et en ce sens, elle lui permet d'exister. Quand on définit quelque chose, ça veut dire qu'on lui permet d'exister. Seulement, une définition, elle est souvent imprécise et elle peut être mal comprise parce qu'il y a un manque d'exemples concrets. Donc, les entités, par exemple, pour définir l'innovation, s'appuient sur leur propre interprétation de ce qu'ils considèrent, eux, comme une innovation. Si l'on met en place un cadre, c'est dans un but précis. C'est-à-dire que ceux qui ont délimité une notion veulent qu'elle soit comprise comme eux-mêmes l'ont comprise, et qu'elle soit même plus abordable. C'est-à-dire qu'ils veulent bien que tout le monde comprenne ce qu'ils attendent et donc ce que ça veut dire exactement. Donc les cadres, on peut dire qu'ils sont fixés pour délimiter et définir explicitement une notion qui doit être commune. Et cette notion doit être respectée par tous. Avoir des limites, c'est exister. En ce qui concerne un positionnement par rapport à la problématique de la relativité de la notion même d'innovation, on a vu précédemment que la notion, elle ne concerne pas un seul aspect particulier. C'est-à-dire, on peut voir de plus que la notion d'innovation, elle n'est pas la même chose, comme je l'ai dit précédemment, pour une entreprise et un consommateur. On ne peut pas leur demander de penser la même chose. Ils n'ont pas le même but. Les entreprises ont un but à caractère économique, alors que les consommateurs, eux, ne veulent pas faire du profit. Donc, ils n'ont pas la même notion. Donc, c'est là qu'il y a un manque de compréhension entre ces deux acteurs. Mais le plus difficile pour une nouveauté, c'est qu'elle soit intégrée au sein de la société. C'est-à-dire que c'est un paradoxe, parce que pour qu'il y ait une innovation, il faut qu'on la retrouve au sein de la société. Mais est-ce que celle-ci, elle va être intégrée par une société? On peut complètement rejeter cette chose nouvelle, parce que la nouveauté, ça fait peur. Donc la socialisation d'un produit va dépendre de la société dans laquelle on veut l'insérer. Donc il faut cibler en fonction de ça, dans quelle société on va intégrer tel produit, pour voir si ça va marcher ou pas. Je prends un exemple. iMusic School, c'est donc une innovation technologique corse qui s'est servie de l'incubateur donc Airbio. Donc c'est une entreprise de musique. La musique, on le sait, c'est un point très important dans la Corse, dans la culture et dans la région. On ne parle que de musique. Donc ce site internet propose des cours de musique en ligne. Donc ça permet donc que les Corses de la région, puisque ça a été fait. Cette innovation a été créée dans la région Corse, ça permet à la population de l'accepter, parce que c'est de la musique, et que la musique, c'est quelque chose qu'on connaît depuis tout le temps dans la culture corse. De ce fait, on peut dire que l'innovation, elle doit quand même être gérée et un minimum encadrée, car elle ne peut pas convenir à toutes les régions. Le dernier positionnement est celui par rapport à la problématique de la gestion. Qu'est-ce que la gestion ? La gestion, c'est organiser quelque chose. C'est-à-dire, une entreprise, elle a besoin d'avoir une gestion. Elle doit être contrôlée. Le contrôle de gestion présent dans les entreprises, lui, il vise à orienter l'entreprise dans un sens qui va favoriser et améliorer ses performances dans un but quand même assez précis. Donc, encadrer est une action indispensable pour éviter de se disperser et cerner les véritables enjeux. Pour qu'elle devienne une innovation, cette invention doit être reconnue et elle doit être mise face à la réalité. Le libre recours à l'imagination est a priori la clé d'un bon innovateur. Vu sous cet angle, la gestion est donc a priori opposée à l'innovation. Mais il s'avère être possible de concilier les deux. Au sein d'une entreprise, on peut trouver du personnel qualifié qui est organisé pour qu'il soit dans les meilleures conditions possibles pour innover. Les gestionnaires y misent de plus en plus sur le capital humain pour avoir un avantage concurrentiel. Par exemple, si les futurs innovateurs sont complètement indépendants et sans limites, ce n'est pas assuré qu'ils réussiront à mettre en œuvre un produit ou un service ou une nouvelle méthode qui aura la capacité d'être reconnue. La gestion des ressources humaines a donc été mise en place pour concilier gestion et innovation. Il y a des méthodes de recrutement qui sont bien sûr différentes au niveau des régions et nationales, en fonction aussi de la taille de la structure et des attentes de l'entreprise. Par exemple, les portes ouvertes qui se font à Paris, elles n'ont pas le même impact pour ceux qui recrutent que si on fait un salon ou des portes ouvertes en Corse. C'est pas la même dimension. Donc il faut peut-être, c'est de là qu'il y a une, enfin, que les modes de recrutement changent. Le mode de management lui aussi diffère selon les entreprises. Mais ils, parce qu'ils n'ont pas la même façon de motiver les employés, ils n'ont également pas les mêmes moyens. S'ils sont étouffés par les gestionnaires, par contre, l'innovateur, et s'il a la pression de la part de ses supérieurs de créer quelque chose, cela ne va faire que ralentir le processus d'innovation. Pour conclure, on peut dire qu'il y a trois grands chemins dont on ne peut dévier pour arriver à l'innovation. C'est-à-dire qu'il y a les aides au processus mis en place par l'État, dont on a besoin. Il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup d'aides financières comparées aux aides non financières. Les organismes qui financent ont une appréhension spécifique, donc ils proposent une approche rationnelle, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de la rentabilité. Et pour la plupart des petites et moyennes entreprises, elles ne disposent pas de ressources assez conséquentes pour pouvoir financer et motiver comme il faut ses employés. Désormais, nous allons parler, donc, entre enfin, nous et ceux qui nous regardent. Donc, je vais lancer un thème qui, je pense, récapitule bien le sujet. Qu'est-ce que est pour vous la notion d'innovation ?
Alors, tout d'abord, pour moi, je pense que le premier mot qui me vient à l'idée quand je parle d'innovation, c'est le mot « idée ». Parce que pour lancer une innovation, ça, au départ, l'innovateur commence par, enfin, a une idée et essaye de la développer.
Oui, c'est sûr, mais moi je pense que la motivation, c'est ce qui est le plus important parce qu'il peut avoir une idée, mais s'il ne s'implique pas vraiment dans son idée, il ne pourra jamais la lancer et être financé et devenir une innovation.
On peut rajouter aussi la notion de l'avenir parce qu'il faut toujours chercher en fait, à innover au sein des entreprises, je pense. Donc il y a une notion de futur.
Il faut également que pour innover, la personne soit assez créative, donc qui revient au terme d'idée. Il faut qu'elle soit créative.
Il y a aussi une notion de concept, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait une culture de l'innovation. Donc pour innover, il faut déjà que la personne soit innovateur, déjà dans son esprit.
Alors moi, pour ma part, le mot qui me vient quand j'entends innovation, c'est le mot nouveau. Alors pour moi, c'est une innovation, c'est plus particulièrement une innovation de produit dans le domaine technologique. Alors je pense à l'entreprise Apple qui a un exemple souvent cité, mais également à l'entreprise Renault qui va mettre en place une voiture électrique qui est construite sur le territoire français. Donc voilà, c'est plus une innovation technologique qu'autre chose pour moi, l'innovation.
Moi, je rajouterais pas seulement une innovation technologique, c'est une innovation qu'on côtoie dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que tous les produits qu'on touche, ce sont des innovations, à la base, c'était des innovations. Donc par exemple, je prendrais le nouveau packaging pour un produit. C'est une innovation comme les bouteilles d'huile qui ont changé leur format de... qui ont changé le packaging de la bouteille.
Donc pour toi, le fait de revoir le packaging d'une bouteille d'eau, c'est innovant.
C'est une innovation.
Alors que c'est toujours la même eau qui se trouve dans la bouteille.
C'est la même eau, mais l'emballage, la forme a changé. Et donc ça peut faire partie d'une innovation.
Selon M. Nicolas, le directeur des eaux de Zil, le fait de revoir le packaging d'une bouteille d'eau, ce n'est pas innover. Lui voit plutôt l'innovation... selon Apple, par exemple, quand il a lancé un iPhone ou un iPad, parce qu'on n'en avait jamais eu avant, c'était pour lui être innovant, alors que changer le packaging d'une bouteille alors que l'eau est la même, ne considère pas ça comme innovant.
Oui, mais ça dépend. Comme l'a dit Madeleine, quand on a été interviewé, il nous a bien précisé qu'au niveau de la Corse, étant en retard même au niveau de la France, la conjonction ne nous permet pas d'innover comme au niveau européen. Pour nous, en Corse, installer une clim dans un supermarché, c'est innovant car ça innove
ça va donner le bien-être.
C'est pour la clientèle, pour les salariés, ça leur permet d'avoir plus de bénéfices et de, enfin de, que l'entreprise s'est portée mieux.
Plus de profit.
Oui, pour moi, c'est pas une innovation. Une innovation, pour moi, c'est quelque chose qui va changer la société, comme par exemple un iPhone ou par exemple des nouveaux ordinateurs, des nouvelles télés. C'est pas qu'une clim, ça ne va pas changer la société, ça va pas changer.
Et à la base, est-ce qu'une clim n'était pas une innovation comme ça?
Oui, peut-être quelques années auparavant, mais maintenant, on ne peut pas la considérer comme un nouveau produit.
Mais étant en retard, économiquement, tout ça, au niveau régional, pour nos entreprises, une clim est une innovation.
Oui, surtout que ça motive. Corse, c'est quand même, il faut savoir que la Corse est essentiellement constituée de PME, de petites et moyennes entreprises. Donc, du fait de leur chiffre d'affaires, ils n'ont pas le budget nécessaire pour installer une clim. Si on va installer une clim sur une grande surface, on sait qu'on ne va pas installer qu'une seule clim. On va en mettre obligatoirement à des endroits clés. Donc, c'est quand même un budget conséquent dans le cadre du budget de l'entreprise. Donc, c'est considéré à ce moment-là comme innovation parce que l'autofinancement de l'entreprise ne pourra pas prendre en compte l'installation de la clim.
Voilà, c'est tout à fait d'accord. Et qu'est-ce que vous pensez, vous, de la notion, des cadres fixés qu'on fait à l'innovation? Déjà, qu'est-ce que tu penses, tu penses, toi, que c'est quoi un cadre?
Moi, pour moi, un cadre, c'est quelque chose qui permet de définir une notion, donc d'avoir une représentation. Mais le problème, c'est que le cadre, il fixe aussi des limites. Donc, il enferme dans une frontière et il donne un schéma de cette notion.
Mais alors moi je pense qu'il y a une véritable confrontation entre l'innovation et le fait de la cadrer, parce qu'en fait l'innovation c'est quelque chose, comme on l'a dit tout à l'heure, qui nécessite de l'idée, de la créativité, mais si on lui fixe un cadre, ça peut la limiter parce qu'il peut y avoir des choses qui l'empêchent d'évoluer. Cela dit, un cadre est quand même, c'est quand même quelque chose qui est indispensable, parce que ça va permettre à l'innovateur de ne pas s'égarer dans sa réflexion, et c'est quelque chose qui va lui permettre d'évoluer également. Bien que ça peut, dans certains cas, empêcher l'innovation d'avancer.
Voilà. Je te contredis parce que tu dis qu'il faudrait qu'il n'y ait pas de limite, en fait. Mais moi, j'ai étudié le domaine de l'innovation au niveau des ressources humaines, on dira capital humain, avec plutôt ce terme. Il faut justement qu'il y ait des cadres. Il faut parce que quand on va recruter, les employeurs ont une idée fixée. Ils cherchent le meilleur profil, en fait. Donc, ils ont déjà des critères de sélection.
En fait, pour toi, le cadre, il faut qu'il y en ait quand même. Il faut un minimum
domaines,
de cadres.
Il faut dans certains domaines qu'il y ait des cadres.
Mais après, c'est ça, il ne faut pas.
Une fois que l'employé est embauché et est dans l'entreprise, il faut laisser les cours à son imagination et pas le brider, en fait.
Et puis, le problème qu'il y a, c'est qu'aussi, pour que l'innovation soit rentabilisée par la suite, il faut savoir que c'est quand même un investissement. Justement, comme on voit au niveau de la Corse, qu'il y a quand même des aides qui sont mises en place par rapport à ça, ils sont justement là pour aider les entreprises à ce que l'innovation soit vraiment bénéfique pour elles. Donc le fait de cadrer et d'aider les entreprises à innover, on voit justement, c'est sûr que ça va peut-être freiner l'innovation à un certain niveau, mais c'est quand même fixé pour aider. Donc à partir de là, je veux dire, on a besoin de cadre pour faire que l'innovation soit bénéfique.
Voilà, moi je voudrais rajouter que en fait, il faudrait dans l'idée ne nécessite pas de cadre, parce que l'idée ça doit être créatif. Par contre, le cadre intervient dans la réalisation du projet. Voilà, c'est quelque chose que
pas brider les
voilà,
les
pas brider l'idée de l'innovateur, mais cadrer sa réalisation. Et surtout la façon de le gérer, c'est là que le cadre est bénéfique.
Voilà, c'est surtout au niveau financier qu'il faut cadrer, c'est ça.
Même au niveau des institutions, ils sont obligés de cadrer un minimum pour ne pas...
Pour être financé déjà.
Simplement pour que l'investissement soit vraiment rentable, tout simplement.
Oui, d'accord.
Bon, alors vous êtes d'accord sur le problème des cadres fixés. Et en ce qui concerne le processus mis en place pour innover, donc on parle qu'il y a un processus pour innover. On peut pas arriver et dire j'ai une idée, j'innove. Donc il y a une démarche à suivre.
Mais alors là, il faudrait une présentation des organismes qui sont censés amener l'innovation, quoi.
Mais déjà, l'innovation, elle est générée par les hommes d'entrée. Donc si maintenant on veut pouvoir innover, il nous faut des personnes qui sont innovantes. Donc déjà, on voit qu'au niveau de la Corse, on a quand même un effort qui a été fait, c'est-à-dire qu'il y a quand même l'université qui a été créée pour montrer qu'aux gens, on peut justement les éduquer, qu'ils aient justement les ressources nécessaires.
Intellectuelles.
Les ressources intellectuelles pour pouvoir innover. qui sont aussi appuyés par les institutions qui ont aidé les financements des universités, mais aussi des établissements scolaires qui favorisent aussi l'alternance, pour aider justement les jeunes à être compétents dans leur travail et pouvoir trouver les innovations nécessaires sur le territoire. Mais aussi, au niveau des entreprises, il y a quand même des aides qui sont faites, donc par FEMUGUI, l'ADEC, les CCI, donc les chambres de commerce et les industries, les conseils généraux, ils sont quand même là pour aider les entreprises à trouver les aides nécessaires pour pouvoir innover.
Mais attends, est-ce qu'ils ont eu des directives, par exemple, est-ce qu'ils ont des directives de l'Europe, où ils peuvent dire, de l'Europe qui nous dit il faut qu'il y ait ça, mais est-ce qu'on a quand même une liberté où ils doivent vraiment suivre l'Europe?
Déjà, au niveau des aides, c'est quand même l'Europe qui va fixer les aides. C'est-à-dire que une entreprise, par exemple, je vais dire qui a 1 million de chiffre d'affaires, qui va demander un investissement, il faut vraiment faire une étude précise sur une entreprise, savoir l'investissement, combien elle va avoir besoin pour investir, et savoir exactement le matériel qu'il va lui falloir. Et tout ça, c'est fixé par l'Europe. Mais le fait que l'Europe, c'est quand même très large, on peut pas comparer l'économie de la France, par exemple de l'Île-de-France, à la conjoncture économique de la Corse. D'où les institutions comme l'ADEC qui eux suivent l'économie de la Corse, donc qui sont beaucoup plus impliqués et qui savent exactement les besoins de leurs entreprises. Mais
ces
politiques sont quand même au départ dirigées par le système européen.
Par exemple, le pôle Cap Énergie qui donne un cadre de l'innovation au niveau des énergies renouvelables, du développement durable.
Oui, mais à savoir que le problème aussi que rencontrent les entreprises en Corse, c'est que pour innover, elles n'ont pas nécessairement besoin que d'aide financière. Mais on remarque que les aides donc non financières, tout ce qui est guide au processus d'innovation, sont essentiellement pour les innovations en recherche et développement. Mais le problème de la Corse, c'est que elle base surtout ses innovations au niveau de l'agriculture et de l'environnement. Donc déjà au niveau technologique, son premier souci, comme disait Angéline, c'est s'approprier les équipements essentiels pour pouvoir innover. Donc voilà, donc tout ce qui est au niveau technologique, comme la clim, on reprend le... C'est surtout ça, en fait, le problème de la Corse, c'est qu'ils ont besoin d'équipements avant tout.
Pour entrer dans la rationalisation, moi, je pense qu'il faut savoir gérer le capital humain, mais sans le brider. C'est-à-dire qu'il faut permettre aux salariés de s'exprimer en toute liberté. Il faut leur permettre un épanouissement tant au niveau personnel que professionnel, ce qui va leur permettre d'être plus impliqués dans leur travail et donc d'être plus productifs et donc plus innovants.
Voilà, pour en revenir à la rationalisation, en fait, pour avoir accès à un financement, il faut passer par ces organismes cités par Marina. Mais pour aboutir vraiment à une innovation, il faut prouver la rentabilité du projet que l'on défend par de nombreuses techniques savantes. Et on va très vite rentrer dans les chiffres. Alors, certes, ces études coûtent quand même assez cher. Et est-ce que les entreprises, les PME, les TPE Corse qui souhaitent innover ont accès à ce type d'études pour pouvoir justifier de leur innovation et pour avoir accès au financement? Ça, c'est l'un des problèmes qui est notamment constaté en Corse par les manques de moyens, en fait.
Il y a aussi le problème que, donc, dans la rationalisation, elles ont peur de plus en plus, les institutions ont de plus en plus peur d'investir dans des projets qui, au final, risquent de ne pas aboutir.
Elles ont peur sur le court terme.
Voilà. C'est pour cela que une définition différente est mise en place. Elles gèrent plus les innovations, elles mettent plus des cadres pour ne pas arriver à un point où financer l'innovation et qu'à court terme, elles n'aboutissent pas, quoi.
En fait, les institutions, elles ne prennent pas de risques.
Voilà.
Non,
elles ne prennent pas de risques.
D'où la demande, justement, par exemple, du chiffre d'affaires, tout ça, pour être sûr qu'à la fin, l'établissement prêteur ne perde pas.
Mais c'est un peu compliqué, quand même, parce que si eux, ils font une étude comme ça. Mais en même temps, si on va voir une banque privée, elle va faire la même chose et elle va encore plus restreindre la possibilité d'avoir...
Oui, mais tout cela est dû à la conjoncture de la Corse.
Oui, c'est sûr, mais je suis d'accord. Mais après, je veux dire, il y a peut-être un moment où il faut se dire, oui, mais si on n'innove pas, on ne va jamais être compétitif, on ne va jamais aller... Oui, mais ça évolue, donc c'est déjà...
On a des entreprises qui réussissent à... ils réussissent aussi, je veux dire, sur le marché, on n'a pas eu uniquement des entreprises qui ont échoué.
Ça veut dire,
là, il y a quand même eu des résultats.
L'exemple d'iSchool Music, d'iMusic School, et après, il y a eu des nouvelles. Oui, non.
Les institutions permettent.
Mais elles ont financé. iSchool Music, voilà, parce qu'il y a eu l'incubateur, ils se sont servis de l'incubateur d'Arbayo.
D'accord avec toi. Les institutions financent, elles ne bloquent pas tous les projets, mais il est vrai que par rapport. À la Corse, elles ne peuvent pas se permettre de financer une innovation qui, par exemple, sur le continent ou au niveau européen, est financée naturellement.
Ah ben c'est normal, on n'a pas les mêmes débouchés.
Parce qu'elle pourrait financer avec les aides européennes, tout ça, elle pourrait financer n'importe quelle innovation. Mais il faut se dire qu'au niveau de la Corse, toutes les innovations ne peuvent pas aboutir. Donc, pour l'instant, on évolue. Tout doucement, la climatisation.
Mais c'est déjà ça, c'est déjà bien.
Il y a des années, elle arrive encore tout doucement.
Malgré le fait que je trouve qu'on les aide beaucoup.
Elles sont suivies.
Le directeur du FEMOUI, il avait quand même expliqué qu'il
y avait des
Il y avait beaucoup d'idées, mais elles étaient souvent filtrées par les institutions. Il y avait beaucoup d'idées, mais. Vu la conjoncture économique, ils doivent faire des choix, ils doivent privilégier ce qui sera rentable et ce qui sera viable.
C'est déjà bien. Je veux dire, le processus, il est quand même lancé. C'est pas comme si on était à un point mort et qu'on fallait vraiment avoir les mêmes idées. Là, il y a quand même une diversité au niveau des idées.
Moi, je pense que le problème qu'il y a aussi à la base, au niveau des idées, certes, elles y sont, mais il y a peut-être un manque de formation des personnes qui lancent ces idées. Qui va leur empêcher d'aboutir. Ils pensent peut-être que le fait d'innover, d'obtenir un financement, c'est quelque chose qui est naturellement...
Alors qu'il y a toute une démarche très rationnelle.
Ils n'ont peut-être pas la conscience du travail, du processus, du travail et
de ce qui doit être fourni.
Il y a une différence entre la perception des gens qui n'ont pas eu de financement et les gens qui l'ont eu avec les études qu'ils ont poursuivies et le travail qu'ils ont mené pour avoir ce financement.
Et ce qu'il faudrait, c'est justement aussi des personnes qui aident les entreprises, non seulement sur le plan financier, mais à savoir gérer justement leur argent pour leur dire, on va établir tel ou tel plan, enfin vraiment qu'il y ait vraiment un suivi, pour ne pas que l'entreprise, une fois qu'elle a l'argent, se dire maintenant qu'est-ce que je fais. Vraiment qu'il y ait un suivi pour vraiment choisir les bonnes alternatives pour booster l'innovation.
C'est déjà ça. Bon, après, on avait choisi, donc, pour illustrer notre thème sur les spécificités de la gestion, on avait choisi une citation. Il n'y a pas d'innovation sans désobéissance. Mais, ça veut dire quoi? Même pour vous, pour tout le monde, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, cette citation? Comment vous la comprenez? Parce qu'on dit, il n'y a pas d'innovation, désobéissance, il y a l'obéissance. Enfin, qu'est-ce que vous, personnellement, vous en pensez?
On a beaucoup réfléchi à cette question. Parce qu'on s'est aperçu que la gestion était très importante, mais comme on...
Qu'il ne fallait pas trop la brider.
Voilà, il faut laisser quand même un peu de créativité et de liberté. Parce que demain, admettons, je décide de lancer une innovation, je vais être lancée avec des idées, je vais être libre. Ça peut décourager l'innovateur, le fait de mettre trop de barrières aussi, trop de documents,
de règles.
Ouais, de règles à respecter par rapport à cette situation.
La créativité fait avancer, en fait.
Oui, mais il faut pas non plus que ce soit trop géré parce que ça peut
empêcher
les innovateurs.
Il faut quand même une gestion.
Attendez, Baptiste.
Donc, vous parlez dans la désobéissance, directement vous parlez de règles. Est-ce que les règles ne sont pas une chose qu'un inventeur, un innovateur devrait aborder après avoir créé?
Ben oui, c'est ce
que je lui ai dit. C'est ce que je lui ai dit tout à l'heure, que le cadre doit apparaître dans la gestion du projet et dans sa réalisation. Il ne doit pas apparaître dans la mise en place de l'idée qui va aboutir à l'innovation, justement.
C'est-à-dire que l'idée elle-même doit être
libre,
mais qu'après, pour arriver donc à tout ce processus, pour que vraiment ça soit défini comme innovation, c'est-à-dire que l'invention elle doit être faite, c'est ça, un peu librement, et qu'après pour arriver au processus d'innovation, là oui, il faut rentrer dans les cadres. De toute façon, si on rentre pas dans les cadres, on n'est pas financé. Sauf si on a des capitaux, et c'est de plus en plus compliqué, surtout de nos jours avec la crise actuelle, c'est très compliqué. Oui, Baptiste.
Donc je repose encore une question. Vous parlez énormément de financement. Vous parlez énormément de se faire accepter. Est-ce qu'il n'y a pas un souci, est-ce qu'il n'y a plus de place à la créativité faite dans un garage, cette invention qui va révolutionner, comme l'informatique l'a été, qui va révolutionner le monde, mais faite sans ce financement, sans cette pression faite par l'extérieur?
Mais au final, tu seras obligé de rentrer dans les règles, et parce que tu ne peux pas partir, comme tu dis, dans un garage, je sais pas quoi, de partir une innovation avec ta créativité, la lancer, sans après devoir arriver aux procédures pour la financer.
Ça coûte cher.
Tu ne peux pas, si tu n'as pas de la financer.
Sauf si vraiment ton projet, il est alors le plus innovant et qu'ils se disent, allez, on...
Tu peux certes avoir une idée très innovante. Toi,
mais alors voilà.
Garage, comme tu l'as
mais
dit.
Tu la développeras jamais.
Mais tu pourras pas la développer parce que.
Sauf si tu arrives à faire changer les institutions et à dire si ah oui lui il est bon, on le finance et on prend pas en compte si ça peut marcher ou pas. J'imagine qu'ils vont te donner des millions ou des milliards et au final ça marche pas. C'est ce qu'on soulève. Après je veux dire comme tu peux prendre le cas de Facebook certes, mais bon Facebook c'est parti au départ il a créé pour lui. Il a pas créé, enfin c'était ça devait pas être un phénomène. Enfin il a pas créé dans le but que ce soit quelque chose de mondial. C'était pas pour un groupe d'étudiants, pas c'était pas pour retrouver ses copains. Donc lui, il a créé pour, enfin, je veux dire, il a pas dit oui, ça va me rapporter des sous, voilà, ce que ça lui rapporte maintenant. Je pense qu'il pensait pas à l'ampleur.
Il a beaucoup d'investissements non plus.
Bien au contraire, il a bien calculé son phénomène. Il a réussi à penser à l'avance qu'il ne devait pas rentrer dans le système financier, mais plier le système financier à son rôle, à son jeu. Parce que Facebook, il a mis longtemps avant de rentrer en bourse, avant de rentrer en publicité, avant de rentrer des investissements. Donc il a fait l'inverse de ce que vous dites. Il s'est pas plié, il a plié le monde financier lui-même. Donc c'est encore possible.
Mais est-ce qu'il s'était rendu compte quand il a commencé à créer Facebook que ça allait avoir un impact comme ça mondial?
Ça s'est fait au fil du temps. Il n'a pas dit oui, je vais créer Facebook et après, enfin, ça va être un phénomène comme ça l'est, enfin, l'importance que ça a pris maintenant.
Puis là, on est au niveau régional. Facebook, c'est quelque chose d'international. Mais là, on est au niveau de l'accord.
Mais le problème, c'est qu'on a plus...
Les entreprises n'ont pas spécialement...
Le cas, c'est qu'il faut trier. Il faut trier les idées qui arrivent. C'est qu'on ne peut pas dire « Ah, tiens, toi, tu as une bonne idée. Allez, c'est bon. » Non, on ne peut pas. Il faut justement qu'il y ait quand même... Il y a beaucoup de personnes qui se disent « On va quand même demander des aides. » Mais le problème qu'il y a, c'est qu'il faut justement trier les idées. Parce qu'on ne peut pas accorder les financements. Voilà, comme Facebook, c'était une idée majeure. Donc... C'est une innovation majeure, on ne peut pas.
Vous êtes en train de nous dire que Facebook n'aurait pas pu être créé en Corse, voire même en France, pourquoi?
Non, c'est pas ça.
Inventé en France, oui.
Il
aurait pu être créé en Corse, mais il n'avait pas besoin d'un financement. Nous, on parle plutôt de cadre, sur des procédés qui ont besoin de financement, d'aide pour aboutir. C'est vrai que Facebook est une innovation qui est partie d'une simple idée et qui au final est devenue
déjà est-ce que la question de savoir est-ce que l'inventeur de Facebook est-ce qu'il a combien il a investi pour créer ce site, moi je sais pas, il a créé du temps, d'accord. Il avait besoin d'argent,
un ordinateur,
voilà. Nous on te parle de quelque chose au niveau d'une, enfin nous on te dit que ces processus là c'est vraiment quand il y a besoin dans la recherche et le développement, si tu as pas la au sein des entreprises, il y a pas, c'est pas donné à tout le monde d'avoir la capacité de mener une recherche et de chercher un produit tu vois qui est innovant. Donc je veux dire après c'est de là que se mettre des cadres, parce que c'est au niveau d'une entreprise, c'est pas quelqu'un seul qui se démarque. Nous, on te parle de, enfin, c'est quelqu'un d'une, enfin, pour créer une entreprise, il y a le monde de l'entreprise, quoi, derrière. C'est quand même une structure, c'est quand même une structure, caractère surtout très économique, et, enfin, très importante. C'est une activité, enfin, je comprends ce que
je veux
te dire.
Mais pourquoi rebondir sur vous parler d'informatique, vous parlez de Facebook, etc. L'informatique, effectivement, ça peut naître dans un garage, Facebook, ça peut naître dans un garage. Pourquoi, dans certains lieux du monde, ça se développe.
Et pourquoi dans d'autres, non?
Et pourquoi dans d'autres ça se développe pas? Pourquoi personne n'en sait à faire? Parce que se réunir entre amis une connexion d'ordinateur, ça pouvait.
Voilà,
c'est un problème culturel. Alors, en quoi les cadres dont vous parlez et la manière qu'on a de gérer intervient justement dans cette culture? Et vous avez également parlé de la notion de risque.
Est-ce que ça ne vient pas d'une culture du risque ou pas?
On n'a pas
de... Facebook, ouais. C'est pas de la confiance qu'il a réussi à avoir.
Oui, oui, oui. Oui. Parce qu'ils ont plus... Vas-y.
Facebook, oui, vas-y. Je suppose que c'est né aux États-Unis. C'est quand même un pays qui est dans l'évolution perpétuelle depuis de nombreuses années, et ils sont perpétuellement dans la recherche. Je parle de la...
Attends, la recherche technologique.
Voilà, là, je parle de la Silicon Valley. Et c'est des ressources, ouais, que nous, on n'a pas chez nous. Ce genre de choses. On n'a pas cette recherche technologique. Et donc ces personnes qui sont culturellement constamment dans une recherche vont plus naturellement aller vers des projets de ce type-là que chez nous. Que nous, les gens ne vont pas... Voilà,
ils prennent pas le risque.
Ils prennent pas le risque. Même au niveau des institutions, il n'y a pas de risque pris, mais même pas au niveau des innovateurs, il n'y a pas de risque pris. Je pense. Hein.
Je pense que nous, on commence à se développer...
Dans la prise de risque, mais voilà. On n'est pas une culture où... Enfin, je pense que culturellement, non, on prend pas... Enfin, je sais pas. Après, c'est une idée, c'est mon point de vue, mais je trouve qu'on n'est pas... culturellement, enfin, on prend pas des risques, quoi. On a plus là, ah, mais il risque de nous arriver ça et ça. On sait jamais, enfin, oui, on va pas prendre le risque de. Non, Baptiste, tu lèves la main. Ou Caroline.
Sans risque, est-ce qu'il y a une chance d'atteindre la grandeur? Est-ce qu'on a une chance, sans cette culture de risque, cette volonté, d'atteindre un plus haut, de plus haute sphère? Est-ce qu'on a un moyen? Pietre l'a fait. Pietre s'est lancé. Donc on a quand même cette notion, cette capacité.
Je n'ai pas remis en cause la capacité. Je te parle de la culture. Au niveau, il y en a qui sont pas. Je veux dire, pas parce qu'on a une culture que tout le monde va réagir de la même manière, même si on se bat sur cette culture. Il y en a qui veulent prendre des risques, mais je pense qu'une majorité ne veut pas en prendre. Elle a peur de prendre des risques.
Comment on se bat sur ses acquis?
C'est le propre même de l'analyse de Schumpeter. Il faut un entrepreneur qui innove, prend des risques. Innover, c'est la condition. Innover et prendre le risque.
Elle est où la question?
Oui. Alors justement, qu'est-ce que vous pensez? En réalité, innover, c'est prendre un risque.
Oui.
Qu'est-ce que vous pensez, parce que c'était ce que vous avez étudié, de toutes ces méthodes qu'on a en place pour ne pas prendre de risque? Alors même
que l'innovation, oui.
Quand on a commencé à parler d'innovation, on n'a pas du tout pensé à tout ce qui est cadre,
on partait sur l'idée, la créativité.
Après, c'est sûr qu'en faisant des recherches, on s'est aperçu, on a été étonné aussi qu'il y ait autant de barrières pour des innovateurs qui, au contraire, essayent de se développer de plus en plus. On a été étonné, mais c'est la réalité de.
On pensait pas que c'était aussi rationnel. Enfin, on pensait pas qu'il fallait rentrer dans tous ces critères pour avoir un financement.
On pensait
que c'était plus simple de dire, quand on arrivait avec un projet qui pouvait être viable, de.
Enfin, pas seulement le financement, mais aussi de se développer.
De se développer, après, ça pouvait être.
Les grandes entreprises qu'on a, par exemple, en Corse, elles peuvent innover avec leur capital, avec leurs ressources. Après, le risque, c'est plutôt dans les petits innovateurs, dans les PME qui ont besoin de financement. Et étant donné que la Corse est en majorité composée de PME, elles ont besoin de financement, d'aide. Et donc, ces personnes, les institutions sont obligées de reconcentrer leurs critères pour ne pas déborder. Quoi.
Oui, Nathalie.
Est-ce que ce ne serait pas peut-être un problème de volonté d'innover, dans le sens où les entrepreneurs pourraient, se priver peut-être. Vous savez que, on a dit Steve Jobs tout à l'heure de Apple, vous savez qu'au début, ils se rémunéraient à 1$ par mois, bon, outre les actions, bien sûr, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de mettre ce genre de système en place pour débuter peut-être?
Mais il faut voir aussi, en fait, c'est au niveau de la culture d'entreprise. Maintenant, je veux dire, une entreprise, ça va englober l'entrepreneur, mais aussi les salariés. Si l'entrepreneur est peut-être prêt à faire des sacrifices, est-ce que son équipe, est-ce qu'il a une culture d'entreprise appropriée pour que son équipe accepte justement un tel sacrifice? C'est ça aussi le problème, c'est que peut-être, est-ce que en Corse, il nous manque peut-être la culture de l'innovation, c'est-à-dire vraiment que les entrepreneurs et les salariés soient prêts à donner de leur temps et énormément de patience pour réussir un projet commun. Et c'est peut-être là le problème, que c'est vraiment individuel en fait. Et tout le monde pense à son chèque du fin de mois et il n'y a rien d'autre.
Voilà, selon M. Nicolas, donc le directeur des eaux de Zille, On peut toujours avoir des idées, mais il faut avoir le moyen de les mettre en place. C'est-à-dire que si on a un personnel qui n'est pas assez compétent, qui n'est pas assez formé, on pourra toujours avoir des idées, mais on ne pourra pas les mettre en place.
Oui, mais le personnel, c'est toi qui le formes. Enfin, c'est le chef d'entreprise qui
le
forme.
Oui, mais pour ça, il faut avoir des moyens.
Oui,
il faut avoir des comptes. Ça part de l'innovation, ça part des aides apportées. Si tu veux former une personne, gérer une innovation, voilà, plusieurs personnes, il faut que tu puisses avoir le financement qui suit à côté. Faire des formations, de nouveaux logiciels, de nouveaux programmes. Ils vont s'investir plus, donc une rémunération plus haute. Tout ça doit être...
Tout est lié.
De l'idée de l'innovation à l'aboutissement, tout est lié. Donc, du coup, ils sont obligés d'être investis, enfin, d'avoir des financements et donc d'avancer par rapport à ça.
C'est réel.
Oui. En fait, je voudrais votre avis, en fait, sur est-ce qu'il faudrait enlever la bureaucratie dans certaines structures pour permettre l'innovation de se développer.
Non, au contraire. On a besoin de la gestion pour.
La gestion, enfin, on peut pas non plus.
Pas des salariés, de faire dire.
Voilà. Je veux que cette innovation naisse. Je dis pas ça. Je veux dire qu'en fait, est-ce que c'est pas trop rigide, en fait? Est-ce que la hiérarchie.
Ah, on les bride pas. Est-ce que on n'empêche pas le.
En fait, il faudrait rompre les frontières, justement, entre la hiérarchie et les employés. C'est-à-dire que. Peut-être pour aider un salarié à dire vas-y, exprime-toi et donne-nous une idée, peut-être qu'il faudrait justement. On revient sur la même idée de la culture d'entreprise. Il faut vraiment déjà que l'idée vienne de l'employeur pour que aider en fait les salariés à générer l'innovation.
Baptiste.
Ce sera ma dernière question, je crois que vous avez assez envie. L'innovation la plus importante. Est-ce que ce serait pas de modifier le système d'innover?
Pourquoi pas?
Ouais. On s'est pas trop penché sur la question, à vrai dire. On n'a pas eu.
On cherche pas des solutions pour résoudre ce problème de l'innovation.
Non, on n'a pas.
C'est sûr que c'est un problème de fond. Et on ne peut pas réfléchir sur une question comme ça. On n'a pas les capacités pour penser à un nouveau système.
Vous pouvez la réfléchir à votre niveau. Vous êtes étudiant en gestion.
Oui.
Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes sensibilisé à justement de nouvelles méthodes de gestion? Vous avez commencé votre intervention en disant que ce n'est pas par une étude de marché sur la lampe à huile qu'on a découvert l'électricité. Ce qui est une réalité, c'est-à-dire qu'on ne gère que de l'existant. On ne peut pas gérer
quelque chose d'abstrait. Oui.
Donc, justement, on entend beaucoup parler de stratégie, il s'agit de sauver tout le territoire par l'innovation. Est-ce que vous, en tant qu'étudiant en gestion, vous avez la sensation que vous êtes sensibilisé? Est-ce que, dans votre formation, vous avez la sensation que, oui, il serait possible de changer le processus d'innovation dans une manière qu'on a de vous apprendre à gérer? Ou est-ce qu'on vous apprend à répliquer?
Non, on nous apprend à répliquer.
Et qui n'ont pas donné.
On nous apprend pas à créer de nouvelles.
On nous apprend pas spécialement à créer.
On nous apprend plus les nouvelles qui sont déjà existantes.
Oui.
Mais après, ça peut être aussi à nous maintenant de dire on va avoir des bases, mais après, c'est à l'individu justement de. Avec ses bases, de faire de quelque chose de concret. Je veux dire, on est obligé d'apprendre à gérer, on est obligé au bout d'un moment d'avoir de la matière. Mais après, c'est qu'est-ce qu'on va en faire qui est intéressant. C'est pas forcément, je veux dire, on est une société qui va nous dire peut-être pas forcément quoi penser, mais ils vont quand même nous pousser. On est quelque part formaté depuis notre naissance. Mais à partir de là, est-ce que s'il faudrait avoir un déclic et de se dire. Pas forcément changer le monde, parce qu'on ne pourra pas, mais commencer à notre niveau d'avoir de nouvelles idées et essayer de changer.
Après, c'est une forme de confiance. Même si on change. Même si on change les processus pour l'investissement, pour le gouvernement et tout ça, est-ce qu'à un moment donné, on reviendrait pas au problème de dire. On finance trop et au final ça aboutit pas. Donc moi je pense que pour l'instant oui, ça serait peut-être amélioré, mais dans la vie de tous les jours, c'est bien d'être libre, c'est bien de vouloir être créatif, tout ça, mais à un moment donné, avoir des barrières et avoir des critères,
Je pense que ça peut être essentiel. Donc oui, modifier peut-être les critères de base, le système est un peu trop strict. Il ne faut pas non plus trop qu'il soit trop flexible.
Il faut qu'il y ait quand même certains cadres, on ne peut pas laisser sans limite. Il faut qu'il y ait des limites, il faut qu'il y ait des frontières quand même.
Ça ne servirait à rien.
C'est pas juste poser sur la confiance. On peut faire confiance à une personne, mais on ne peut pas savoir ce qui peut arriver par la suite et on ne peut pas non plus financer toutes les innovations qui...
Surtout que ça demande beaucoup au niveau économique, donc on peut pas prendre le risque de faire de.
Mais surtout
de,
au niveau
économique, c'est quand même beau. Enfin, ça a quand même un impact assez fort.
Plus de questions ?
Plus de questions, Magie ?
C'est bon ?
C'est bon ? Voilà, ben, nous avons terminé.
C'était l'Atelier Campus. Les étudiants prennent la parole.